Alors, bon après-midi tout le monde. Je veux... Parfait, merci. Bon après-midi tout le monde. Je souhaite à nouveau souhaiter une joyeuse et bonne fête des mères à tous les mères ici présentes. Alors, je vous souhaite une journée particulièrement bénie dans sa grâce. Alors, que le Seigneur vous accompagne pour cette prochaine année. Avant de débuter, je voudrais aussi remercier les pasteurs de l'Assemblée de me donner cette possibilité-là d'exposer la parole de Dieu et vraiment de me prêcher à moi-même. Je suis le premier spectateur et le premier concerné de cette parole-là. Alors, sans plus tarder, ouvrons ensemble dans l'Épître de Pierre, 1 Pierre 2, verset 1, et nous lirons les 12 premiers versets de l'Épître. Alors, levons-nous pour la lecture de sa sainte parole. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Fin de la lecture. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai contre toute attente divisé ce texte de cet après-midi en trois points. Premier point, un appel à rejeter ce qui détruit notre communion avec Dieu, les trois premiers versets. Deuxième point, un appel à croître collectivement dans la parole et à se laisser édifier, versets 4 à 8. Et pour le troisième point, une affirmation puissante de notre identité et de notre mission dans le monde. Versets 9 à 12. Mais avant d'entrer dans le commandement du verset 1 au chapitre 2, rejetant donc toute malice et toute ruse, il est essentiel de comprendre d'où vient cet impératif. L'apôtre ne nous lance pas un ordre moral isolé, mais il l'enracine dans une vérité profonde déjà affirmée, notre nouvelle naissance. La vie chrétienne ne commence jamais par un effort de notre part, mais par une grâce du Seigneur. Et c'est précisément ce que l'apôtre nous enseigne dès les premières lignes de sa lettre au premier chapitre. Il nous appelle des élus selon la préscience de Dieu, qui avons été mis à part par l'Esprit et rachetés par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, chapitre 1, versets 1 et 2. L'apôtre bénit Dieu qui nous a fait renaître pour une espérance vivante, un héritage incorruptible, réservé dans les cieux et gardé par la puissance de Dieu. Et voici notre identité. Nous sommes un peuple régénéré, sanctifié, destiné à la gloire, même si aujourd'hui, pour un peu de temps, nous sommes éprouvés par diverses afflictions. Versets 6, 7. Cette identité, frères et sœurs, n'est pas simplement individuelle. Elle est aussi ecclésiale, communautaire. Car nous avons été rachetés non par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Verset 18-19. Et notre vie nouvelle repose désormais sur cette semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 23 du premier chapitre. Cette parole, ce message de vérité qui a purifié nos cœurs et nous a rendus capables d'aimer sincèrement. Ainsi, tout ce que Pierre va dire ensuite dans le message qu'on va voir cet après-midi, est enraciné et découle de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Ce n'est pas une morale imposée à l'extérieur à un non-converti qui ne pourrait même pas et ne voudrait même pas obéir à Dieu. Parce que, comme le dit Romains 3, 11 et 12, « Nul n'est intelligent, nul ne recherche Dieu, ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Nous étions tous des ennemis de Dieu avant qu'il nous arrache du présent siècle mauvais par sa grâce. Obéir à ses commandements est plutôt l'expression naturelle d'une vie déjà transformée à l'intérieur par notre Dieu. Lorsqu'on regarde les versets qui précèdent immédiatement le chapitre 2, à la fin du chapitre 1, versets 22-23, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Ce message vient affirmer la raison pour laquelle les chrétiens doivent être sobres dans le chapitre 1, verset 13, qu'ils ne doivent pas se conformer à leurs anciennes convoitises du verset 14 du premier chapitre. Et maintenant, au chapitre 2, puisque nous avons été régénérés par le Seigneur, parce que nous sommes désormais enfants de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent plus subsister dans nos vies. Il y a des comportements, des attitudes comme la malice, la ruse, l'hypocrisie, l'envie, la médisance qui sont contraires à cette nouvelle nature. Ainsi, le verset 1 du chapitre 2 découle directement de cette réalité spirituelle nouvelle, ayant été purifiée, transformée par la parole de vérité. Nous sommes appelés à vivre une relation sincère les uns envers les autres et nous édifiant mutuellement. Alors, il est important de le rappeler, le rejet du mal n'est pas la cause de notre salut, mais bien la conséquence. Alors, plus concrètement, dans le verset 1 du chapitre 2, Pierre nous rappelle que la malice est un poison pour la communion fraternelle, qu'elle détruit ce lien sacré qui unit les membres du corps de Christ ensemble. En ce sens, elle est véritablement l'un des ennemis principaux de la communauté des croyants. De même, la ruse et la dissimulation sont des péchés pernicieux. Rappelons-nous que c'est par elle que le Seigneur fut trahi par l'un de ses propres disciples. L'histoire de Judas nous enseigne que la duplicité peut se cacher sous les apparences les plus pieuses. L'envie, quant à elle, naît d'un désir de posséder ce que l'autre possède. Elle s'enracine dans une comparaison constante et douloureuse. Parfois, elle pousse à souhaiter que l'autre perde ce qu'il a, simplement pour que cesse en moi le rappel de ce que je n'ai pas. Ça franchit un seuil moral important, le malheur d'autrui devient à mes yeux un soulagement. L'envie se nourrit souvent d'un sentiment d'injustice ou d'un orgueil blessé. Pourquoi lui et pas moi? Seigneur, j'ai toujours marché dans tes voies. Pourquoi n'ai-je pas telle ou telle chose que mon frère possède? Mais attention, tous les désirs ne sont pas mauvais. Il existe des saints désirs, ceux que la parole de Dieu approuve. Par contre, un bon désir n'est pas une réaction à ce que notre frère possède, mais il s'exprime dans la confiance, la patience et la pureté de cœur devant Dieu. Il est libre de toute convoitise désordonnée. Celui qui marche dans l'amour est capable de se réjouir sincèrement de ce qu'un autre possède la chose, même s'il ne la possède pas lui-même. Peut-être que mon attitude négative envers mon prochain vient de là, de l'envie. Peut-être que je parle contre mon prochain, que je fais de la médisance parce qu'il a ce que je n'ai pas. Parce que la médisance, à l'opposé de la calomnie, différemment plutôt, consiste à révéler des faits vrais ou qui sont considérés comme tels dans l'intention de nuire. La calomnie, quant à elle, repose sur le mensonge délibéré. L'une ou l'autre, la calomnie ou la médisance, cherche à nuire à la réputation d'autrui. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Même si la calomnie paraît plus grave, les deux manifestent une même malveillance. L'un déforme la vérité, l'autre l'utilise cruellement. Dans les deux cas, les chrétiens n'agissent pas dans l'amour, mais dans le jugement. Ils dévoilent ce que Dieu a déjà couvert par sa grâce. Si un frère s'est repenti et a reçu le pardon de Dieu, qui sommes-nous pour raviver un péché déjà crucifié à la croix? N'est-ce pas un acte d'orgueil? Ne risquons-nous pas d'usurper la place de Dieu en niant la puissance de sa grâce? Comme on peut lire dans la lettre de Jacques, « Ne parlez point en mal les uns des autres. Celui qui parle en mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur est juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? » Comme Pierre exhorte, « Ayez une bonne conduite parmi les païens, afin que la main où ils vous calomnient comme malfaiteur, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Pourtant, nous ne sommes pas à l'abri de tels péchés. » Il arrive qu'on parle en bien d'un frère en face de lui, mais qu'on le critique aussitôt dans son dos. La racine de l'envie, de la malice, finit toujours par produire ces fruits-là d'hypocrisie, de jugement, de division dans le corps de l'Église de Dieu. Que diraient les non-croyants lorsqu'ils nous entendent dire du mal, comme les gens du monde? Les chrétiens ne sont pas vraiment différents. Ils font comme nous. Pourquoi devenir chrétiens? Nos mauvaises œuvres entachent notre témoignage envers le Seigneur. En plus de pécher contre lui, nous sommes censés être les hommes et les femmes les plus droits que l'on peut trouver sur la terre, mais nous agissons comme des païens. C'est sans surprise qu'on peut dire que nous n'avons pas été appelés à cela. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par une parole vivante. Nous ne sommes pas de simples moralistes qui essaient de camoufler la mort spirituelle sous une façade religieuse. Nous avons reçu une nouvelle nature. Dieu a d'abord sanctifié en nous et il nous a sanctifié en nous mettant à part pour lui. Et c'est par son esprit qu'il continue de le faire, de nous sanctifier à tous les jours par sa grâce. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il désire que nous abandonnions ses péchés, que nous les ayons en horreur, comme tous les autres d'ailleurs. Non, notre sanctification n'est pas une œuvre qui a été initiée par nous. Elle n'est pas non plus une œuvre qui nous concerne uniquement, une fois qu'elle a été initiée par le Seigneur, mais dans notre marche chrétienne, elle est une synergie avec notre Dieu qui désire notre sanctification. Par amour pour notre Dieu et pour les autres, nous rejetons les œuvres mortes d'hier, de notre ancienne vie, qui nous font rougir, ou du moins qui devraient nous faire rougir. Renonçons à l'envie, à la malice, à la médisance et au péché qui désire avoir une emprise sur nos vies. Le Seigneur veut notre sanctification et la désire ardemment. Alors marchons dans la lumière comme des enfants de lumière. Laissons derrière nous les œuvres des ténèbres et poursuivons avec persévérance ce que Dieu nous appelle à être, des témoins de sa grâce et des artisans de paix. Attardons-nous plus particulièrement cette semaine à attaquer férocement ces péchés. Tu sais, il y a plusieurs péchés qu'on lutte dans notre vie, mais en tant que corps, en tant que Dieu pourvoit au travers de l'exposition de sa parole, je crois que pertinemment, certains péchés devraient être attaqués plus précisément, non pas que puisqu'on parle de ces péchés-là, alors on peut faire le reste des péchés, mais dans sa souveraine grâce, Dieu, je crois, par sa parole, nous parle et désire que nous portons une attention particulière cette semaine. Alors, au verset suivant, 1 Pierre 2:2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Ces versets qui semble simple en apparence, est en réalité d'une profondeur théologique et pastorale assez grande. Il nous parle d'un désir, d'une soif, d'un appétit de chaque chrétien qui devrait cultiver dans sa vie, se nourrir de la parole de Dieu. Pierre utilise ici une image connue de tous, celle d'un nourrisson, pour exprimer la manière dont nous devons nous approcher de la parole de Dieu, avec urgence, sincérité, avec dépendance. Il ne s'agit pas d'un intérêt intellectuel et froid, des concepts abstraits, mais d'un attachement vital, d'un attachement existentiel. Il est important de souligner que Pierre ne reproche pas à ses lecteurs d'être spirituellement immatures. Ce n'est pas du tout le même contexte que celui dans l'Épître aux Hébreux, où il réprimande sévèrement ses destinataires en disant « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Pour ces chrétiens mentionnés dans l'Épître aux Hébreux, être encore au lait signifiait un manque de sérieux, de croissance spirituelle, une stagnation, voire une régression dans leur progression, dans leur compréhension de l'Évangile. Malgré le temps passé depuis leur conversion, ces croyants auxquels l'auteur des Hébreux, aux Hébreux s'adresse, étaient devenus lents à comprendre, encore attachés à d'anciennes formes religieuses, incapables de saisir pleinement les vérités profondes de Christ. Cette situation témoignait d'une paresse spirituelle, d'un engourdissement de cœur et d'un refus implicite de marcher résolument dans la voie de la sanctification. Mais ici, chez Pierre, il n'y a pas de réprimande sévère. Bien au contraire, l'apôtre utilise l'image du lait spirituel et pur d'une manière entièrement positive. Ce lait symbolise clairement la parole de Dieu, pure et sans ruse, source continue de croissance et de maturité pour chaque chrétien. Le croyant n'est pas appelé à abandonner ce lait, mais à le désirer toujours plus. Il ne s'agit pas d'un aliment réservé à des nouveaux convertis, mais d'une nourriture indispensable à chaque étape de notre vie chrétienne. Ce lait spirituel est nécessaire à notre sanctification progressive. Nous sommes dans un processus constant de sanctification qui repose sur une alimentation fidèle à cette parole-là et à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Quelques versets auparavant, 1 Pierre 1, 23, Pierre avait établi un contraste fort entre la semence corruptible et la semence incorruptible de la parole de Dieu. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il affirme que cette parole est vivante, efficace et qui est incorruptible. Elle ne se flétrit pas, elle ne perd pas sa puissance, ne devient jamais inutile. Et maintenant, il poursuit ce contraste en utilisant des termes grecs, par exemple, la ruse, dolos, que les croyants doivent rejeter, 1 Pierre 2:1, opposé au lait spirituel qui est pur. Le mot rendu par pur, c'est adolos, ou sans ruse. Un lait spirituel qui est sans ruse. Les croyants doivent rechercher ce lait qui est sans ruse, un lait spirituel qui est pur de cette parole-là. Ce contraste souligne à quel point la pureté et l'intégrité de la parole de Dieu sont essentielles pour notre croissance spirituelle continue. La parole, lorsqu'elle est fidèlement prêchée et reçue dans le cœur du croyant, produit une transformation réelle et durable dans la vie de ce chrétien-là. Par l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui fait comprendre à notre cœur et qui ouvre les yeux de notre cœur à cette parole bénie. Alors, comprenons bien ceci. Pierre ne nous considère pas comme des bébés spirituels incapables de comprendre des vérités plus profondes. Il ne nous invite pas à une régression de passer de la nourriture solide au lait. Mais il nous appelle à une progression qui est ancrée dans les fondations solides de la vérité elle-même. Il insiste sur l'importance vitale et permanente des vérités fondamentales de l'Évangile de Dieu. Ce que les enfants dans la foi reçoivent au début de leur vie avec le Seigneur, nous croyants plus expérimentés, en avons encore de besoin et nous en aurons de besoin jusqu'à la fin de notre vie. Ces vérités premières de l'Évangile, la grâce de Dieu, la justification par la foi, la croix du Christ, la résurrection, l'espérance du salut, la mise à mort des œuvres de la chair, ne sont jamais dépassées ou rendues inutiles. Elles constituent vraiment le fondement stable sur lequel nous construisons toute notre vie chrétienne. Et elles nourrissent notre foi à chaque étape de celle-ci. Alors, c'est pourquoi restons attachés aux premières paroles de l'Évangile, celles-là même qui nous ont permis de grandir dans la foi. Ces paroles sont toujours aussi nécessaires aujourd'hui qu'au début. Ils seront utiles tous les jours de notre vie, nous nourrissant, nous éclairant, nous fortifiant jusqu'à la pleine maturité en Christ. Alors, ensemble, désirons ce lait spirituel comme un enfant désire la substance qui le fait vivre et grandir. Revenons chaque jour à la parole, non comme un devoir pesant sur nos vies, mais comme une source rafraîchissante. Prions pour que le Seigneur alimente en nous ce désir ardent et qu'il nous garde dans sa sainte doctrine. Que cette parole pure, sans ruse, nous affermisse dans la vérité, nous sanctifie par l'Esprit et nous fasse croître à la ressemblance du Christ et nous fasse porter des fruits dans le monde. Et concrètement, que pouvons-nous faire pour manifester ou pour vivre cette vérité-là du lait essentiel pour nos vies? Engageons-nous à réserver un temps quotidien pour lire, méditer la parole de Dieu, les passages de l'Écriture, pas seulement pour cocher une case, mais pour nourrir véritablement notre âme. On le sait, moins que nous lisons l'Écriture, moins que nous avons le goût de passer du temps avec le Seigneur. Et plus nous la lisons, plus nous sommes transformés et plus nous avons envie de passer du temps avec lui. Posons-nous cette question à la fin de chaque lecture. Comment cette parole m'appelle-t-elle à obéir, à croire, à aimer mon prochain? Quelle vérité ai-je appris ou la parole m'a rappelé à propos de Dieu? En quoi m'appelle-t-elle à changer? Ai-je trouvé un encouragement pour une situation de vie dans laquelle je me trouve? Partageons cette parole avec nos frères et sœurs. Partageons-la à la maison, à l'église, dans les communions fraternelles. Nous ne grandissons pas seuls. Nous sommes un peuple, un corps, une famille. Répandons-la autour de nous. Comme le dit le dicton de la FTE, nous voulons toujours mieux le connaître pour mieux le faire connaître. Enfin, examinons nos vies à la lumière de 1 Pierre 2:1. Rejetons toute ruse, hypocrisie, envie, médisance. Ce sont des poisons qui tuent notre appétit pour la parole de Dieu. Prions que le Seigneur les déracine de nos cœurs pour que rien n'empêche notre âme de grandir, de s'approcher de lui. Que Dieu nous accorde de toujours désirer ce lait spirituel et pur, source de vie éternelle, pour notre croissance continue pour le salut. Mon deuxième point, un appel à croître collectivement dans la parole et à se laisser édifier, versets 4 à 8. Ce passage est riche, il contient 2 objectifs principaux. Premièrement et simplement, des vérités théologiques et profondes, mais deuxièmement, une rhétorique dans le but d'encourager des chrétiens persécutés. Alors, pour le premier objectif, après avoir appelé les croyants à désirer la parole comme un lait spirituel et vital pour leur salut et leur sanctification progressive au verset 2-3, Pierre nous transporte maintenant dans le domaine de la croissance individuelle et nous change de la croissance individuelle à une réalité collective et glorieuse, celle d'une maison vivante que Dieu est en train de bâtir. Pierre utilise maintenant une image majestueuse, celle d'un temple spirituel en pleine construction. Et ce temple n'est pas fait de mains mortes ou de briques ordinaires, mais de pierres vivantes. À la base de cette construction unique se trouve Christ lui-même, la pierre vivante, la pierre rejetée, la pierre angulaire rejetée parmi les hommes, mais qui est précieuse aux yeux de Dieu. Pour appuyer cette réalité-là, Pierre utilise un catena scripturarum, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, une chaîne prophétique formée de 3 passages de l'Ancien Testament, qui sont les suivants, Ésaïe 28, 16, Psaume 118, 22 et Ésaïe 8, 14. Ces références ne sont pas aléatoires, mais choisies intentionnellement par Pierre pour démontrer plusieurs vérités cruciales. Premièrement, Pierre montre clairement que la venue de Christ n'est pas un accident imprévu de l'histoire, mais l'accomplissement d'un but bien précis, d'un plan prophétique établi par Dieu. Dieu avait annoncé par Ésaïe qu'il poserait en Sion une pierre angulaire précieuse et solide, garantissant que quiconque s'y appuierait ne serait jamais confondu. Cette pierre, c'est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité en gloire, fondement éternel et sûr que Dieu a bâti pour nous son Église. Deuxièmement, Pierre révèle que le rejet de Jésus par les bâtisseurs religieux d'Israël n'était pas une anomalie ou un échec pour lui, mais la réalisation exacte d'une prophétie biblique. Psaume 118, 22. Ce rejet, loin d'annuler la mission messianique du Christ, l'a authentifié. Ce que les hommes ont jugé indigne, Dieu l'a exalté comme pierre d'angle centrale dans son plan du salut. Ce renversement radical est au cœur même de l'Évangile. Et le troisièmement, Pierre affirme que l'Église des croyants, issue de toutes les nations, ne vole pas ou n'usurpe pas la vocation d'Israël. Elle ne remplace pas simplement arbitrairement Israël, mais l'hérite légitimement de la promesse divine en s'attachant à la pierre angulaire rejetée par Israël. Ils auraient dû l'accueillir, mais ils l'ont rejeté. Ce point est d'une grande importance rhétorique et théologique parce qu'il encourage profondément ces nouveaux croyants, un peu moins expérimentés dans la foi, autrement païens, qui n'étaient pas du peuple d'Israël, en leur affirmant qu'ils sont désormais le véritable peuple de Dieu, intégrés dans le plan rédempteur de Dieu par la foi en Christ. Et voici ce qui est réellement extraordinaire. Nous, frères et sœurs, sommes aujourd'hui intégrés dans cette construction-là divine. Unis au Christ par la foi, nous devenons nous-mêmes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas isolés, ni dispersés, ou abandonnés sur un chantier inachevé. Au contraire, nous sommes ajustés, façonnés ensemble par l'Esprit de Dieu vivant, dans un processus dynamique et continuel. Dieu lui-même est l'architecte et le maître bâtisseur. Ça se concrétise ici même dans notre Église réformée baptiste de la Trinité. Depuis bientôt 10 ans, le Seigneur construit son Église locale brique par brique, vie par vie. Je pense notamment à notre frère Lucas qui a été ajouté à cet édifice spirituel-là il y a environ 1 an. Une nouvelle pierre placée soigneusement par Dieu lui-même. Durant toutes ces années à notre Église, il y a eu des hauts, des bas, mais nous croyons, parce que l'Écriture le dit, que chaque personne avec ses dons et ses talents contribue à l'édification de l'ensemble du corps que nous formons dans cette assemblée. Chaque membre participe activement à l'édification de cette maison spirituelle où Dieu réside réellement. Chaque église locale fidèle aux Écritures est ainsi l'expression visible et authentique de l'Église universelle du Christ. Lorsque quelqu'un entre ici, il ne pénètre pas simplement dans un bâtiment, dans un vieux bâtiment de centenaire, mais il entre dans une communauté nouvelle, une communauté vivante où la présence de Dieu demeure, où le culte véritable s'élève en esprit et en vérité. Il entre dans ce nouveau temple spirituel que Jésus parlait dans les Évangiles. Ensemble, nous formons un édifice spirituel où notre Dieu habite constamment. Lorsque les gens qui ne connaissent pas Dieu viennent parmi nous, l'Église locale de la Trinité, ils sont au centre de la communauté qui est unie et qui adore le seul vrai Dieu. La présence de Dieu est au milieu de nous. Le Seigneur approuve l'Assemblée des justes et même eux peuvent le ressentir. Alors, Pierre va encore plus loin lorsqu'il dit que nous ne sommes pas seulement le temple, mais nous sommes aussi un sacerdoce saint. Contrairement à l'Ancienne Alliance, où seulement les prêtres pouvaient avoir accès au sanctuaire, maintenant, sous la nouvelle alliance établie en Jésus-Christ, chaque croyant est consacré, mis à part pour servir Dieu directement. C'est le sacerdoce commun des croyants, héritage de l'alliance annoncée dès l'Exode au chapitre 19, verset 6, maintenant accompli dans l'Église de Jésus-Christ. Par notre baptême, nous avons été consacrés pour servir Dieu devant lui. Et quel est notre service en tant que saint sacerdoce? Offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ces sacrifices ne sont plus des animaux ni toutes sortes de rites anciens qui avaient leur importance à ce moment-là. Mais c'est désormais des sacrifices qui sont agréables. C'est notre vie entière offerte en louange, en service sincère, en obéissance à sa parole, en amour mutuel les uns pour les autres, en acte de miséricorde, en témoignage fidèle de l'Évangile. Toutes ces choses, offertes par l'Esprit, par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, sont agréables à Dieu. Alors, pour mon troisième et dernier point, une affirmation puissante de notre identité et de notre mission dans le monde. Enfin, Pierre nous décrit comment le Christ, la pierre vivante, devient un point de division entre croyants et non-croyants. Maintenant, en introduisant ce troisième point avec l'expression forte « mais vous », il insiste sur le contraste radical entre les incrédules qui trébuchent sur Christ et les croyants qui y sont édifiés. Pierre désire encourager ses lecteurs souvent marginalisés et rejetés par leur entourage en leur rappelant leur glorieuse identité collective en Jésus-Christ. Cette réalité difficile mais prophétisée, la pierre centrale, le Christ, est aussi une pierre de scandale. Ceux qui refusent de croire trébuchent non par simple ignorance, mais par désobéissance volontaire à l'Évangile. Pierre ne cache pas cette réalité. La pierre de salut est aussi une pierre de jugement, placée inévitablement sur le chemin de tous les hommes. Mais cette division était prévue et elle confirme encore la souveraineté de Dieu sur toute l'histoire, sur le plan du salut. L'apôtre dit ainsi à ces chrétiens persécutés et marginalisés, ne soyez pas surpris ni découragés. Tout cela fait partie du dessein éternel de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, son peuple choisi et précieux, édifié sur la pierre vivante qui est Jésus-Christ. Les Juifs sont tombés parce qu'ils n'ont pas cru. Ils sont confus par leur incrédulité. Mais nous, maintenant que nous ne sommes pas confus, nous avons cette assurance qui est ferme et qui est sûre, qui est basée sur ce roc séculaire. Nous savons en qui nous avons cru, nous connaissons Dieu et surtout nous avons été connus par lui. Nous avons une dignité que le monde n'a pas et ne peut avoir. Nous habitons en sa présence, nous le servons dans sa maison et nous manifestons sa gloire comme peuple sanctifié. Pierre leur applique aux chrétiens les grands titres honorifiques autrefois réservés exclusivement à l'Israël dans l'Ancien Testament. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, verset 9. Pierre tisse ensemble deux textes clés de l'Ancien Testament, Exode 19, 5 à 6, qui décrit la vocation d'Israël après la libération de l'esclavage en Égypte, et d'Ésaïe 43, 20, 21, qui promet la restauration après l'exil babylonien. En combinant ces références-là, Pierre annonce que ce que Dieu avait promis à Israël est maintenant pleinement accompli dans l'Église, grâce à l'œuvre rédemptrice de notre Sauveur. L'Église ne remplace pas Israël seulement de manière arbitraire, mais elle devient le véritable Israël, accomplissant ainsi pleinement son appel originel de peuple de Dieu. Alors, chers amis, notre valeur ne provient pas du regard que le monde porte sur nous. Notre dignité vient pas du fait que nous appartenons, mais notre dignité, ouais, plutôt, vient du fait que nous appartenons au Dieu vivant. Ne laissez jamais l'opinion négative et mondaine des autres définir votre identité. Puisez votre assurance dans la grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Vous êtes appelé un saint sacerdoce, un sacerdoce royal. Signifie, en plus que tout ce que nous avons dit précédemment, que nous appartenons au roi des rois et que nous possédons un accès directement à Dieu. Nous sommes une race royale, nous n'appartenons plus à ce monde de ténèbres, mais notre patrie est dans les cieux, avec notre frère ressuscité, vivant sous sa seigneurie, maintenant au travers de ce monde, mais attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où il fera bon vivre sans le péché et sans l'esprit de l'Antéchrist. Pierre nous appelle à être vigilants. Il dit, « Je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il s'agit d'un combat intérieur quotidien. Hein, c'est pas quelque chose qui arrive le lundi, mais qui arrive pas le mardi. Mais c'est vraiment à tous les jours, même le dimanche, les tentations sont toujours là. Alors, nous ne devons pas négliger les luttes invisibles. Chers frères et sœurs, quelles que soient les convoitises qui nous menacent aujourd'hui, votre paix intérieure et votre communion avec Dieu, peut-être qu'elle est attaquée par l'ennemi. Identifiez-les, confessez-les si vous tombez dans le péché. Demandez la force de l'Esprit pour y résister, les abandonner dans d'autres cas. L'expression « nation sainte » ne désigne pas principalement une perfection morale qui est déjà atteinte, mais plutôt leur séparation radicale d'avec le monde pour Dieu. Ils sont mis à part pour être distincts, différents du monde qui les entoure, afin de refléter la sainteté de Dieu. Nous formons ensemble une communauté de vie nouvelle, d'amour véritable et de service humble, radicalement distinct des valeurs de notre société. Et c'est la parole de Dieu, certes, mais c'est ce saint témoignage de l'œuvre de Dieu par l'Esprit et la parole dans le cœur des croyants qui attire les âmes à lui. C'est vrai, on peut déjà avoir entendu « Ah, moi j'étais seul chez nous, j'ai ouvert la Bible et je me suis converti. » Mais la réalité, plus souvent, c'est que les âmes sont converties au travers de relations. Ils voient les chrétiens vivre, ils sont attirés, ils sont invités à l'Église. Et c'est ce saint témoignage-là qui convainc les cœurs avec la parole de Dieu, bien sûr. Ils vont remarquer nos bonnes œuvres. Ils vont voir que nous sommes différents, que nos œuvres sont différentes d'avec le monde. Et ça va les attirer. Ils vont dire qu'ils ont quelque chose de différent. Ils ont quelque chose. Ils blasphèment pas comme le monde. Ils font pas de la médisance comme le monde. Mais plutôt, ils élèvent leurs frères. Ils élèvent leurs prochains. Alors, soyons vraiment un témoignage pour notre Dieu. Alors, notre vie entière, notre travail, nos relations, nos moments de détente, tout est appelé à devenir un acte d'adoration pour Dieu. Comment pouvez-vous transformer votre quotidien en un culte rendu à Dieu, en offrant chaque situation, chaque défi, chaque joie, comme une louange à celui qui nous a sauvés? Nous sommes une nation sainte, alors nous devons vivre différemment de notre société. Notre manière d'aimer, de pardonner, de gérer nos conflits et nos biens matériels doit refléter une vérité différente. C'est celle du royaume de Dieu et non pas du royaume d'ici-bas. On peut se poser la question, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour moi, dans mon milieu de travail, dans ma famille, dans mon voisinage? N'oublions pas que lorsqu'il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite » au verset 12, ce n'est pas notre réputation que nous cherchons à préserver, mais c'est celle de Dieu. Notre désir, c'est que sa gloire soit manifestée à travers nous. Certes, Dieu n'a nul besoin de nous pour faire resplendir sa gloire. Il est souverain et parfaitement suffisant, mais dans sa sagesse, il a choisi de se glorifier par le témoignage de son peuple. Voilà pourquoi nos actions comptent. Par notre conduite, nous pouvons soit honorer son nom ou, hélas, déshonorer aux yeux du monde. Évitons donc, par des œuvres indignes, d'assombrir l'éclat du nom de notre Dieu que nous portons si chèrement dans le cœur. Alors, en conclusion, dans notre texte, nous découvrons un appel clair à vivre à la lumière de notre nouvelle identité en Christ. Parce que nous avons été régénérés par une parole vivante et incorruptible, nous sommes appelés à rejeter tout ce qui détruit la communion avec notre Dieu personnellement, mais avec les frères. Nous sommes mis à part, oui, nous mettons de côté la malice, la ruse, l'envie, la médisance, et nous désirons ardemment la parole de Dieu, la source croissance de spirituel, ce lait spirituel et pur pour notre salut. Pierre nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais un peuple saint, un temple spirituel en construction, un sacerdoce royal. En tant que pierre vivante unie au Christ, la pierre d'angle, notre vie entière doit devenir un sacrifice spirituel, une adoration concrète. Enfin, notre conduite doit être irréprochable parmi les non-croyants, non pour notre réputation, mais pour la gloire de Dieu. Par notre sainteté, notre amour et nos œuvres visibles, Dieu choisit de se glorifier et d'attirer à lui un peuple et d'extirper des âmes, des ténèbres de ce monde. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne durant cette semaine et que Dieu soit glorifié en toutes choses. Amen. Amen.